chaos moyen-oriental avec Yves Aubin de la Messusière et Gilles Kepel. Déclenché le 20 mars 2003, l'invasion américaine de l'Irak avait pour but, chacun s'en souvient, de faire émerger une société civile qui poserait les bases d'un Moyen-Orient démocratique, pro-américain et en paix avec Israël. On sait ce qu'il advint. Une fois ôté le couvercle de la dictature, ce n'est pas une société civile avide de pluralisme que l'on a vu surgir, c'est un affrontement féroce entre sunnites et chiites qui a conduit, avec la création de Daesh, à une exaspération du djihad. Quelques années plus tard, en 2011, les printemps arabes ont suscité un immense espoir. Le regime change n'était pas à portée du dehors. Par les avions et les canons de l'hyperpuissance, il était réclamé par les peuples. Une révolution de la dignité se déroulait sous nos yeux. Mais là encore, l'histoire a déçu l'espoir. La Tunisie mise à part, l'islamisme ou le tribalisme l'ont emporté sur les revendications démocratiques. En Égypte, l'armée a repris les choses en main, 2 ans après la victoire électorale des frères musulmans. On se disait que le monde arabe ne pouvait échapper au bouleversement qui avait conduit à la chute du mur de Berlin. Il faut en rabattre. L'humanité, décidément, ne se laisse pas englober dans un destin et un calendrier unique. Reste à savoir pourquoi. C'est ce que nous tâcherons d'élucider avec Gilles Kepel, dont le dernier livre a pour titre « Sortir du chaos, les crises en Méditerranée et au Moyen-Orient » et avec Yves Aubin de la Messusière, qui, entre autres postes prestigieux, a été directeur de la section Afrique du Nord et Moyen-Orient du Quai d'Orsay, et qui publie « Profession diplomate, un ambassadeur dans la tourmente ». Et je mettrai pour lancer l'émission « Les pieds dans le plat ». Je commencerai par la question qui fâche. Y a-t-il une exception arabe? L'idée d'histoire universelle ne nous dissimule-t-elle pas la discordance des civilisations? Gilles Kepel.
Alors, il y a probablement une exception, je ne sais pas si elle est arabe, islamique, mais il y a peut-être aussi une exception européenne, russe, on va voir tout ça. Avant de répondre directement à votre question, je voudrais revenir sur 2003 que vous avez évoqué tout à l'heure. Bien sûr, l'un des arguments de l'invasion américaine, c'est d'instaurer une démocratie sur les ruines de la dictature de Saddam Hussein. Il y a aussi un argument beaucoup plus terre à terre. Il faut punir l'Arabie Saoudite, dont 15 membres, dont 15 citoyens, ou sujets plutôt, ont été les kamikazes du 11 septembre. Et une partie de l'administration américaine décide de s'appuyer sur les chiites d'Irak pour être le producteur de pétrole central et marginaliser les Saoudiens de cette manière-là. Donc, il ne faut pas non plus se laisser prendre à l'argumentaire qui est celui de l'administration américaine. Il y a ça, c'est pas faux. Il n'y a pas de raison de penser que c'est de la malhonnêteté de leur part. Voilà, mais il y a aussi un autre facteur qui est, et donc on pourrait dire, on pourrait répondre à votre question, qui est aussi l'exception pétrolière, si,
oui,
vous voulez.
Oui, c'est vrai. Oui, c'est Paul ça. Wolfowitz, par exemple, un des artisans de la politique étrangère
néoconservatrice,
de George Bush, était ce qu'on appelle un néoconservateur. Oui, oui. Et il y avait une vraie part d'idéalisme, peut-être absurde, dans la politique qu'il entendait mener.
C'est juste. Alors, mais ça, c'est un pour mémoire. Par ailleurs, effectivement, l'une des grandes questions, c'est comment en est-on arrivé là, alors que chacun en 2011 croyait que ça y était, après Salazar, Franco, les colonels, et après le socialisme de l'Europe de l'Est, enfin, ça y est, les Arabes entrent dans la démocratie et il s'en est fini du dilemme entre dictature et djihadisme. Et on a vu, on est tous allés, moi je suis beaucoup allé à ce moment-là, j'avais fait un bouquin de récit, un récit de voyage, Passion arabe d'ailleurs, Place Tahrir et ailleurs, et effectivement on avait des jeunes gens qui manifestaient toute la journée, qui étaient très sympathiques, qui écrivaient les slogans de mai 68, il est interdit d'interdire et autres sur les murs. Et puis en fait, sous ces mouvements, il y avait des forces beaucoup plus profondes, qui ont peu été vus à l'époque, qui avaient une implantation plus significative dans les sociétés que ces jeunes gens sympathiques. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer aussi, de restituer à travers la chronologie du livre. notamment les mouvements djihadistes et islamistes, qui en étaient arrivés au moment où les soulèvements arabes, je préfère ce terme à révolution et à printemps, sont advenus en 2010, 2011, 2012, qui en étaient à leur troisième phase, cette troisième phase du djihadisme, où, au fond, après Ben Laden, des idéologues comme Abu Musab al-Souri, Zarqawi et autres, avaient privilégié le djihadisme par le bas, par les réseaux, en utilisant les réseaux sociaux. Alors, on s'est à ce moment-là gargarisé, c'est la révolution 2.0, c'est formidable. On était au début de cette vision angélique des réseaux sociaux, qui ont aussi une face noire, comme chacun sait, et qui ont été utilisés et mis à profit très rapidement par les mouvements djihadistes de troisième génération, qui ensuite ont réussi à, d'une certaine manière, prendre l'ascendant à travers, pas forcément les masses directement, mais un certain nombre de groupes qui se sont constitués et qui ont réussi à surimposer leur agenda sur celui des jeunes révolutionnaires.
Alors justement, Yves Aubin-Lamessusière, on a beaucoup parlé de démocratie à propos des printemps arabes, mais ne peut-on pas dire qu'après la révolution iranienne, après le retrait des troupes soviétiques en Afghanistan, et avec les printemps arabes et leur révolution, l'islam s'est affirmé comme un agent historique majeur, ce que, évidemment, notre point de vue, que nous soyons libéral ou marxiste, notre philosophie de l'histoire, avait du mal, en quelque sorte, à enregistrer.
Oui, oui, effectivement, il faut remonter, d'ailleurs Gilles Kepel dans ses différents livres, remonte dans l'histoire de l'islamisme et du djihadisme, déjà très ancien, hein, dans les années 1980, et par exemple l'assassinat de Sadat, qui a été une catastrophe en soi aussi, a bien montré, qu'il y avait un djihadisme qui pouvait être proprement égyptien, et après, on est passé au djihadisme global. Mais alors, pour revenir justement aux révolutions arabes, je veux dire deux choses. Regardez ce qui s'est passé en Tunisie et dans une moindre mesure, là, en Égypte. Et toujours intéressant de voir quels sont les ressorts de ces révolutions qui sont venus de la société civile et qui contestaient pas tellement les personnes au début, mais les systèmes. Ils voulaient en sortir. Et ce sont des mouvements, enfin, la Tunisie, je connais très bien la Tunisie parce que j'y étais ambassadeur, qui sont des mouvements endogènes. Et s'il y a une certaine réussite, on pourra en parler, parce que la Tunisie a réussi sa transition démocratique, c'est parce qu'il n'y a pas eu d'intervention ni de puissance régionale, ni de puissance internationale, au contraire de ce qui se passe là actuellement en Irak. Et alors, il était évident, et c'est l'analyse que je faisais lorsque j'étais quelques années avant l'émergence des printemps arabes, que l'islamisme, et donc pour la Tunisie Nahda, et pour les frères musulmans en Égypte, serait l'alternative. Effectivement, pourquoi ? Parce que ces mouvements sociaux là qui sont sortis avec, et comme vous l'avez dit, ce sont des révolutions de la dignité. Il y a un mot en arabe, karama, qui est encore beaucoup plus fort, parce que voilà, c'était l'humiliation qui a amené ces peuples-là à se révolter. Il y avait aussi d'autres facteurs, c'est l'absence de démocratie, c'est l'absence de liberté d'expression, c'est aussi tout un système de corruption et de prédation, mais désorganisé, puisque pour la Tunisie, même si Nahda était interdite, il y avait des milliers de prisonniers dans les prisons de Ben Ali, ils étaient là dans le paysage, ils étaient dans un exil intérieur, ils étaient organisés. Donc ils ont accompagné et puis effectivement ils ont confisqué cette révolution. On a vu la même chose en Égypte au moins pendant un premier temps avec Morsi, les frères musulmans, et ça a été l'échec, et ça nous partageons la même analyse avec Gilles Kepel, c'était dans l'échec de l'islam politique. Et donc par-dessus, parce qu'il y a eu un échec de l'islam politique qui peut expliquer aussi la survenance et le développement, le renforcement de ce djihadisme radical à travers Al-Qaïda, à travers surtout l'État islamique.
Oui, mais vous avez utilisé le mot d'humiliation. C'était une humiliation sociale, mais il y a aussi une autre dimension qui est l'humiliation de l'islam. Et le réveil de l'islam a aussi donné beaucoup d'espoir. À cet égard, je voudrais faire un petit détour, si vous me le permettez, par le livre de Jean Birnbaum, Un silence religieux. Ce qui est très intéressant dans ce livre, c'est la lecture qu'il fait des articles de Michel Foucault dans le Corriere della Sera. On a voulu, si vous voulez, faire entrer ces textes dans la longue liste des errements intellectuels du XXe siècle. Il est vrai que Foucault a témoigné d'une sympathie pour le moins aventureuse à l'égard du mouvement, en parlant de spiritualité politique. Mais il n'y avait pas que cela. Il y avait chez Foucault une lucidité tout à fait prodigieuse, puisqu'il dit « L'islam, qui n'est pas simplement une religion mais un mode de vie, une appartenance à une histoire et à une civilisation, risque de constituer une gigantesque poudrière à l'échelle de centaines de millions d'hommes. » Et cette autre phrase, « Le problème de l'islam comme force politique est un problème essentiel pour notre époque et pour les années qui vont venir. » Ça témoigne quand même d'une certaine clairvoyance, malgré tout. Vous avez parlé de la place Tahrir, mais vous le dites très bien, Gilles Kepel, place Tahrir, les frères étaient très présents. Et quand Youssouf al-Qaradawi est venu parler place Tahrir, tout le monde l'écoutait.
Il l'a transformé en mosquée à ciel ouvert. C'était voilà, trois jours après la chute de Moubarak, le vendredi 14 février.
Et vous dites aussi autre chose, Gilles Kepel, sur Bachar el-Assad, parce qu'il y a eu un printemps syrien aussi, qui a été, on a vu ce qu'il a donné, mais justement, au début, Bachar el-Assad a voulu donner des gages. Hein, dans les tout débuts. Alors, il a pris un certain nombre de mesures conciliantes. Un, il a levé l'état d'urgence, il a autorisé l'appartenance aux frères musulmans qui étaient punis de mort, et le port du niqab pour les fonctionnaires, dont les salaires ont été augmentés, et il a envisagé le pluripartisme et la liberté de la presse. Donc, tout ça sur le même plan. Le pluripartisme, la liberté de la presse et le port du niqab. Donc, est-ce qu'on peut pas dire que l'islam était toujours déjà présent dans ces révoltes populaires de la dignité?
Il était présent, mais à propos de Bachar el-Assad, c'est évidemment une affaire de manipulation. C'est-à-dire que le régime syrien, un régime autoritaire, mais également appuyé sur une minorité religieuse, les alaouites, lâche du lest aux islamistes parce que il s'est servi d'eux pour gérer la société. Comme en Égypte, d'ailleurs, vous aviez d'un côté l'État militaire qui s'occupait des relations avec Israël, de l'armement, des relations avec les États-Unis. Et puis, comme dessous tout s'était effondré, qu'il n'y avait plus de régime de sécurité sociale ni rien, c'était les islamistes à qui était déléguée la gestion du corps social pour éviter la révolte. Et avec leurs dispensaires, avec leurs mosquées, etc. Parce que la religion, comme vous savez, est ambiguë. Elle peut à la fois prôner le calme et par ailleurs prôner la révolte. Et donc, aussi bien le régime égyptien de Moubarak que celui d'Assad, pourtant issu d'un parti laïque, lui-même minoritaire, se sont beaucoup appuyés sur les frères et sur les salafistes pour tenir les quartiers populaires et pour éviter le soulèvement et la violence dont ils auraient été les premières victimes. On le verra ensuite dans la guerre civile syrienne, où le régime d'Assad a libéré à l'automne 2011 tous les djihadistes les plus extrémistes des prisons, un peu comme ça avait été fait en Algérie dans les années 90, durant la guerre civile, histoire de briser les rangs de la rébellion. Et ça a d'ailleurs parfaitement réussi. Au début, Daesh n'était pas particulièrement ciblé par l'aviation de Bachar el-Assad.
Il vaut madame Suzière.
Je reviens. Ce qui est intéressant, c'est de retrouver les premières images de ce qui s'est passé. Place de la Casbah à Tunis, place Tahrir en Égypte et surtout en Syrie. Regardez ceux qui sont présents. Ce sont des jeunes. On le voit, la manière d'être habillé, c'était pas des islamistes. Ils sont arrivés après, ils ont confisqué, ils ont accompagné cette révolution parce que ils sont très organisés, ce qui explique. Alors pour revenir à ce que vous disiez, vous laissez entendre que finalement c'est l'islam en soi qui est un problème. Mais la plupart de ceux, parce que nous parcourons le monde arabe et le monde musulman, ils vivent parfaitement leur islam, qui est un islam, c'est toujours difficile de mettre des qualificatifs, qui est un islam modéré. Ils font une interprétation des textes coraniques qui n'ont rien à voir avec l'interprétation des mouvements djihadistes, d'ailleurs qui s'en prennent aussi bien aux chrétiens, aux juifs, qu'aux chiites aussi, ça on pourra parler effectivement, des chiites. Et ces mouvements ont été, il faut le reconnaître aussi, élus totalement démocratiquement. Ça a été le cas en Tunisie, ça a été le cas en Égypte, oui, et puis ça a été le cas même autrefois, le Hamas qui a été élu. Alors on peut tout à fait le regretter.
Et non mais c'est bien voilà. Ce que je veux dire. Donc l'islam est aussi entériné en quelque sorte, la force de l'islam, par la démocratie, par la volonté démocratique. Oui. Donc je ne parle pas de l'islam en soi, je parle de la consistance politique et de l'existence politique de l'islam aujourd'hui, et je constate que il peut être porté au pouvoir par les urnes, oui. Ce qui prouve sa force, même si au départ les manifestants se sont très éloignés de l'islam, mais ces manifestants sont quand même minoritaires dans les sociétés.
Ils sont pardon. Il faut faire véritablement la différence entre, c'est pas le problème de l'islam en soi, c'est le problème de l'islamisme et au-delà de l'islamisme radical. Vous voyez, parce que ces jeunes qui manifestaient d'ailleurs en chantant sur les places en Syrie, et ce sont probablement, pour beaucoup d'entre eux, ce sont pas à proprement parler des laïcs, ce sont de bons musulmans, même s'ils ne vont pas... parce qu'il y a quand même une sécularisation très forte dans les sociétés arabes, il faut tenir compte.
Parlons-en de cette sécularisation, parce que quand on voit des images de l'Égypte dans les années 50, on voit aussi les blagues de Nasser sur le voile, on se dit que ce pays a été engagé dans la voie de la sécularisation, sans que ce soit d'ailleurs une laïcité imposée d'en haut par une dictature qui la discréditait, comme les parties basses en Syrie et en Irak. Et là, il y a eu quand même un grand recul, l'islam, alors, je parle pas, l'islamisme, il faut s'entendre, les frères musulmans ne préconisent pas le djihad, il n'empêche que c'est une forme d'islamisme qui a une très très grande présence, notamment en Égypte. Alors, comment expliquer je sais pas s'il faut parler de régression ou d'infléchissement, mais cette modification dans une histoire qui semblait aller vers une plus grande sécularisation.
C'est précisément tout l'objet du livre, de sortir du chaos, et c'est pour ça que je fais commencer cette histoire moderne à 1973. La guerre dite d'octobre ou du Kippour ou du Ramadan, selon les préférences de chacun, qui voit en réalité la victoire de l'Arabie Saoudite, puisque c'est l'embargo sur le pétrole décidé par le roi Faisal qui va contraindre l'armée israélienne, qui est victorieuse dans sa contre-offensive contre l'Égypte, à s'arrêter à 101 km du Caire. Et l'Arabie Saoudite sort donc le grand vainqueur de cet affrontement et va s'enrichir considérablement avec le quadruplement des prix du brut et diffuser partout pour conforter son pouvoir dans le monde musulman cette vision salafiste ou wahhabite de la religion en payant les imams, etc. Et c'est ça qui va en grande partie, en utilisant la force de l'argent du pétrole, diffuser le wahhabisme et d'une certaine manière, l'objectif premier des Saoudiens à ce moment-là, c'est de casser les élites modernisatrices qui, par ailleurs, se sont elles-mêmes discréditées parce que ça a donné la corruption, le nationalisme outrancier, la dictature, etc. Et c'est un peu, si vous voulez, le basculement, c'est pour ça que le livre commence à ce moment-là, à mon avis, c'est 73. 79 que vous évoquez quand Michel Foucault va en Iran, et célèbre d'une certaine manière en anticipation ce qu'on appellerait aujourd'hui l'intersectionnalité des luttes, si je puis dire, c'est un moment où vous avez un concurrent aux Saoudiens qui naît, c'est-à-dire la révolution islamique iranienne et en monde chiite va dire non, l'islamisme politique, on va l'utiliser contre les Américains, contre les Saoudiens qui sont leurs valets et pour lutter contre l'impérialisme. Et depuis ce temps-là, si vous voulez, cette surenchère à l'islamisme entre le pôle saoudo-américain d'un côté, avec en plus leur bisbille interne, et le pôle irano d'abord soviétique, finalement reste l'élément structurant qui a abouti aujourd'hui. Il y a des cartes dans le livre. Au début, vous avez la carte de 73 où le conflit israélo-arabe et l'affrontement Est-Ouest sont dominants. Aujourd'hui, c'est une carte assez différente où finalement le conflit israélo-arabe reste présent, mais il n'est plus sinon central, du moins exclusif, il est là, et vous avez d'autres éléments, qui est le conflit sunnite-chiite, le conflit intra-sunnite, à tel point qu'Israël, par exemple, aujourd'hui, est le meilleur ami de l'Arabie Saoudite contre l'Iran, et également le meilleur ami de la Russie contre l'Iran. Vous voyez, donc, on a ces éléments-là qui peut-être situent la question que vous posez, comme ça, de but en blanc. C'est vrai, quand on regarde les photos, peut-être à celle-là que vous pensez, les promos de la fac de droit du Caire. Dans les années 50, elles sont toutes dévoilées avec les coiffures frisées des années 50, des jupes plissées. C'est en noir et blanc. Ensuite, dans les années 70, on voit quelques voiles apparaître. Et aujourd'hui, les seuls qui ne sont pas voilés, ce sont les chrétiennes, c'est-à-dire les coptes. Mais il y a tout un processus qui l'explique. Le livre, justement, vous essaye d'expliquer comment se met en place.
Dans ce livre, je vais donner tout de suite la parole à Yves et Madame Césaire, mais dans ce livre, effectivement, ça commence en 73. Vous insistez sur le rôle de l'Arabie Saoudite et du wahhabisme. Sauf que vous dites aussi que la guerre du Kippour, les Égyptiens allaient en guerre au cri de Allahu Akbar, alors qu'en 67, c'était terre, air, mer. Voilà. Et on disait qu'ils avaient perdu à cause de ça. Donc, il y avait quand même une islamisation interne dès ce moment-là.
Oui, on disait, ce sont les propagandistes de l'islam, de l'islamisme politique, qui le justifie, bien sûr, de cette manière-là. Et juste avant que Yves Aubin intervienne, en 73, comme pour les musulmans, c'est le Ramadan, ils ne peuvent pas aller ni boire ni manger entre le lever et le coucher du soleil, sauf si le djihad est proclamé. Et le djihad est proclamé parce que le djihad, c'est un peu comme la mobilisation générale, si j'ose dire. C'est la guerre sainte, et donc les autres impératifs de l'islam sont supprimés. Mais le djihad peut être utilisé d'une manière, entre guillemets, laïque. Bourguiba, ramadan, levait son verre. Alors, c'est la télévision entre noir et blanc, on savait pas trop ce qu'il y avait dans le verre, disons que c'était de la limonade, et en disant, c'est un djihad de favoriser le développement économique.
Voilà. Il avait inventé le concept de djihad pour le développement, et il se proclamait, Bourguiba, le combattant suprême. Donc c'était effectivement un vrai détournement laïque du djihad.
Et pour dispenser notamment du ramadan, c'est ça.
Oui, c'est pour dispenser.
Et puis aussi pour aller vers le dévoilement, parce que c'est un problème d'interprétation. Et donc il faut souligner, et je le souligne dans les deux livres, c'est l'immense responsabilité des Saoudiens sur la salafisation de l'islam. Moi, j'étais ambassadeur au Tchad en 1991. Je voyais Idriss Déby et qui me disait, mais regardez, les Saoudiens, ils sont en train de nous, alors que l'islam africain est un islam ouvert, proche du sunnisme, nous installer un peu partout, donc, des mosquées salafistes. Ils ne disaient pas wahhabites, mais salafistes. Et juste sur l'histoire, c'est très intéressant. Au XVIIIe siècle, le bey de Tunis reçoit une injonction de Abdelwahab Abdallah, le fondateur du wahhabisme, pour dire « vous êtes de mauvais musulmans ». Pourquoi ? Parce que vous pratiquez le maraboutisme et qu'il y a aussi du soufisme. Alors il réunit les oulémas et il fait une réfutation en bonne et due forme, comme d'autres ont dû le faire aussi, pour dire « non, nous sommes de bons musulmans et nous avons notre tradition ». Alors ce qui est très intéressant, parce que j'avais étudié ces textes-là, c'est complexe, et maintenant ce salafisme, il est venu par les télévisions et les réseaux sociaux. C'est bien qu'il y a, par exemple...
Al Jazeera, notamment.
Oui, non, pas tellement Al Jazeera.
Ah bon ?
Al Jazeera porte le message islamiste.
Plutôt frère musulman.
Non, mais il y a des...
Ah, le frère musulman. Non, non. Alors, on a le choix entre la frérisation et la salafisation.
Non, parce que là...
C'est un peu inquiétant, quand même.
Oui, donc, il y a d'autres petites chaînes, là, qu'on appelle notamment Iqra, c'est l'apératif, c'est-à-dire apprendre les textes coraniques. C'est effrayant. C'est effrayant. Et ça a beaucoup influencé. Et vous parlez aussi la manière de se voiler, avec ce voile noir un peu partout. Mais ça vient de l'Arabie Saoudite. C'est une forme de salafisation par les réseaux sociaux, et mais surtout par les télévisions dans les années 80, 90. Enfin, j'ai été le témoin. Alors, pour revenir sur la question israélo-palestinienne, j'ai remarqué effectivement dans l'excellent livre de Gilles Kepel, c'est le nouveau Kepel, enfin, je connais toute sa littérature, qui tourne beaucoup... Et à juste titre, sur le djihadisme, l'expansionnisme, etc., sur les différents dossiers, on parle de la Syrie, on parle de l'Irak, mais moi j'aurais attendu un chapitre sur la question israélo-palestinienne. Et moi je réfute le fait, parce qu'on le dit après les révolutions, au moment de l'émergence des révolutions arabes, parce qu'effectivement on a constaté que les foules ne brûlaient pas les drapeaux israéliens, il n'y avait pas de slogan anti-israélien, ni même anti-américain, parce qu'ils étaient pris par leurs propres problèmes. Mais ça ne veut pas dire pour autant que la question israélo-palestinienne ne garde pas une forme de centralité. Tout ne doit pas être ramené, bien entendu, au conflit quasiment centenaire israélo-palestinien, mais c'en est en quelque sorte la matrice. Et quand on voit ce qui se passe là actuellement à Gaza, il y a eu plusieurs guerres, on peut déjà annoncer la prochaine, et puis aussi la droitisation aussi du gouvernement israélien, on peut s'attendre malheureusement, disons, à de nouveaux conflits et de nouveaux affrontements. Et on en a vu quand il y a eu effectivement à Gaza ces milliers de blessés, des centaines de morts et ce qu'on appelait la, l'intifada, donc des pierres qui ont été lancées contre à la frontière israélienne, c'est ce qu'on appelle le mouvement du retour.
Ah, le mouvement du grand du retour. La marche du grand retour, ce qui est quand même très intéressant.
Non, non, okay, effectivement.
C'est la marche du grand retour en Israël.
Alors, le problème, puisque ayant été chargé par l'ancien ministre des Affaires étrangères d'une mission, alors que je venais de prendre ma retraite auprès, à Gaza, auprès du Hamas, pour mieux les comprendre, c'est pas un mouvement djihadiste, le Hamas. On peut condamner les actions qu'il mène contre des implantations là en Israël, mais c'est un mouvement avant tout nationaliste. Il s'est confronté.
Attendez. Il mène pas d'action contre les implantations. Il mène des actions contre certaines villes d'Israël.
Le terme, oui, effectivement, implantation, oui, très bien. Oui, du côté d'Ashdod, et très bien, je connais très bien Israël.
Ashdod et Ashkelon.
Oui, Ashkelon. Mais lui a été confronté aux djihadistes. Il y a eu des affrontements extrêmement sanglants. Et d'ailleurs, même, on dit maintenant, ce sont les services israéliens, que l'État islamique est présent d'une certaine manière à Gaza, et puis même, on peut, quelques aussi arabes israéliens, ce qui est aussi inquiétant. Parce que, maintenant, le slogan, alors pour finir, le slogan dans la propagande djihadiste, qu'observe de très près Gilles Kepel, c'est « Demain à Jérusalem ». C'est « Demain à Jérusalem ». Et là, on peut craindre effectivement qu'il y ait de nouvelles actions. Donc on ne peut pas dire que le conflit israélo-palestinien, dont on ne voit aucune perspective de solution pour l'instant, à cause même de Trump, eh bien, soit, disons, une crise et un conflit qui ne soit pas, d'une certaine manière, toujours central.
Ah, alors, Gilles Kepel répond, et puis moi aussi après.
Alors, ce que je veux dire, c'est que il était, dans les années 70, hein, c'est ce qui illustre les deux cartes qui sont dans les deux rabats du livre, celle du début de cette histoire et celle de la fin, momentanée en tout cas, c'est que au départ, il est ce par quoi se pense notre analyse et notre compréhension quasiment exclusive des conflits de la région. Les autres lui sont tous subordonnés. Aujourd'hui, il reste présent comme un irritant très important. Mais les lignes de faille se sont beaucoup, si j'ose dire, devant l'académicien, complexifiées. Je suis pas sûr que ce mot existe. De quelle manière, comme je l'ai mentionné, par exemple, aujourd'hui, Israël n'est plus simplement dépendant de l'alliance américaine, mais est allié avec un certain nombre d'États arabes, pas seulement ceux avec lesquels il a signé des traités comme la Jordanie et l'Égypte, qui sont finalement des acteurs relativement secondaires, mais il y a une solidarité très forte avec l'Arabie Saoudite contre les agissements de l'Iran en Syrie. L'année dernière, enfin en 2018, à peu près à cette époque, quand j'étais en train de finir la préparation du livre, je me suis trouvé fin janvier en Israël et en février en Arabie Saoudite, où j'ai vu des personnalités importantes. Et chaque fois, je leur ai posé la question « Alors, que va-t-il se passer, d'après vous, en Syrie ?» La réponse a été la même, paradoxalement. Nous, on fait confiance aux Russes pour gérer la situation. Même les Saoudiens qui avaient payé la milice Jaïch el-Islam qui était dans la Routa, dans la banlieue de Damas, que vous connaissez bien, ont dit c'est fini, on fait confiance aux Russes. Même le retour de Bachar, c'est pas trop un problème pour l'instant, mais en tout cas, l'Iran, on n'en veut pas dehors. Et donc on avait cette chose très étonnante. On a cette chose aussi tout à fait surprenante aujourd'hui, que vous avez l'Arabie Saoudite et la Russie, qui sont les pétromonarchies numéro 2 et 3 respectivement, enfin 3 et 2, hein, puisque la première, c'est revenue l'Amérique, et ça c'est un élément très important pour nous aider à penser l'avenir de la situation, qui sont alliés absolument et de manière vitale, car leur alliance, c'est ce qui permet de maintenir les prix du pétrole à un certain niveau, sinon ça s'effondre, et ces régimes sont dans une situation dramatique. Autre phénomène, j'y reviens une petite seconde, dans la péninsule arabique, où depuis 73, on était habitué à ce que finalement, le pouvoir de la région, c'était les pétromonarchies. Aujourd'hui, il y a des clivages très importants dans ces pétromonarchies, autour par exemple de l'embargo du Qatar. Et le Qatar, vous ironisiez sur la frérisation ou la salafisation tout à l'heure, Alain, en fait c'est un enjeu extrêmement important, puisque le bloc des pétromonarchies sunnites est fissuré aujourd'hui entre ceux qui soutiennent les frères musulmans, Qatar, Turquie, et ce qui a abouti à l'affaire Khashoggi, cette histoire, hein, à Istanbul, oui. Et d'autre part, ceux qui soutiennent des salafistes, enfin, ce qui était le bloc salafiste, aujourd'hui plus allié aux Américains. Étant entendu qu'en Arabie Saoudite, où je suis allé plusieurs fois ces dernières années, après y avoir été interdit de séjour pendant 7 ans, on voit qu'il y a un changement paradoxal, si vous voulez, qui est que la jeunesse saoudienne, elle, a, dans une large mesure, pris fait et cause contre la domination et la mainmise salafiste. Et en fait, Mohamed El Salman, dans son mouvement de modernisation autoritaire, a plutôt surfé sur cette vague qu'il ne l'a initiée. Donc on voit une tectonique qui bouge aussi dans la région. Et en ce sens, il me semble que l'un des enjeux pour Israël, c'est d'arriver aujourd'hui à réfléchir à la place qu'il va avoir dans une région levantine en pleine recomposition. Moi, le pari que je fais, et je me tais là, je vous l'assure, c'est que on va voir que le bloc saoudien, le bloc de la péninsule, s'effrite d'une manière qui va être de plus en plus importante, parce qu'ils ne sont plus ceux qui ont ce qu'on appelle la position de producteur élastique, la capacité de faire les prix. Ça se fait maintenant au Texas. Donc ils vont perdre. Il y a un changement énorme qui est en train de se produire, et on va voir renaître le Levant qui avait été complètement ratatiné par les cours du pétrole. Et dans ce Levant là, il y a toutes sortes de questions qui se posent. Comment sortir de la crise syrienne? Les Russes sont obligés de faire des deals avec les Orientaux, avec les Occidentaux, par exemple les Européens, parce que ils ne peuvent pas payer tout seul la situation. Les Iraniens les poussent à une situation militaire. Eux n'en veulent pas, veulent une situation politique. Poutine était au KGB à Dresde en 1989. Il n'a pas envie de se retrouver rapatrié en HLM dans la banlieue de Saint-Pétersbourg. Et Israël est donc confronté aujourd'hui à un certain nombre de choix. Est-ce qu'il continue sur une ligne Netanyahou, qui était celle, ou bien alors, est-ce qu'au contraire, ils essayent d'être partie prenante de ce Levant en recomposition? Et ça, c'est, je pense, c'est un vrai enjeu pour demain.
Ah, très bien. Alors, j'aurais maintenant une question précise à vous poser à tous deux, et d'abord à vous, Yves Aubin de la Mestuzière, parce que vous avez signé en 2016 dans Le Monde une pétition avec d'autres ambassadeurs pour engager le gouvernement français à reconnaître tout de suite la Palestine. Une pétition extrêmement sévère contre Israël. Et vous dites que ce conflit, en effet, la question palestinienne constitue un objet grave de dissentiment avec le monde arabo-musulman, et elle est en toutes circonstances utilisée contre l'Occident par les extrémismes religieux. Vous regrettez que l'Europe soit inhibée par l'ombre de la Shoah et la puissance des lobbies qui défendent les options les plus extrêmes de la droite israélienne. Vous envisagez contre le gouvernement actuel d'Israël toute une série de mesures de rétorsion qui ressemblent un peu à boycott des investissements. Sanctions. Alors, premièrement, il n'y a pas l'équivalent pour ce qui concerne les Palestiniens, c'est-à-dire la charte du Hamas ou les appels à la haine dans les écoles de Cisjordanie et dans les manuels scolaires de Cisjordanie. Mais surtout, moi, je suis depuis longtemps opposé aux implantations. J'ai signé l'appel de J. Cole. Simplement, je parlais tout à l'heure de l'islam. Nous assistons aussi à une islamisation de la cause palestinienne. Nous savons aussi, c'est la raison actuelle de la faiblesse du camp de la paix en Israël, que quand les Israéliens se retirent du Sud-Liban, ils ont le Hezbollah, vous avez raison de dire Bala, parce que Hezbollah, c'est le parti d'Allah. Le Hezbollah face à eux qui tire des roquettes, et quand ils se retirent de Gaza, parce qu'ils se sont retirés de Gaza, ils n'occupent plus Gaza, ils ont le Hamas. Et l'islamisme est très fort en Cisjordanie aussi. Et ne pensez-vous pas que même si un accord est trouvé, un compromis extrêmement douloureux, painful, comme dirait Sharon, pour les deux côtés, eh bien, les islamistes, qu'ils soient salafistes ou fréristes, diront que c'est une trahison, diront que il s'agit d'une terre islamique et redoubleront de colère et de violence. Donc, l'un des problèmes, l'une des raisons de l'échec actuel du processus de paix tient également à l'islamisation générale et notamment l'islamisation de la cause palestinienne.
Je crois que c'est un peu réducteur. Enfin, le fait de dire qu'il y a islamisation, oui, certainement, mais pas djihadisation. Il faut quand même faire la différence. Le Hamas, que j'étais observateur, simplement analyste, puisque nous n'avions aucun contact avec eux, et on m'a chargé d'une mission discrète qui malheureusement a été révélée, et c'est un mouvement avant tout nationaliste. Ce qui les intéresse, c'est pas le Coran, c'est la terre. Et quand on discute avec eux, par exemple, j'ai eu de cesse, et aussi je suis revenu avec des Américains et des Britanniques, des anciens diplomates, pour leur dire « changez votre charte ». Ils viennent de la modifier à la marge, de manière assurée, pour éliminer tout ce qui est en oui, fondamentalement antisémites, oui. Fondamentalement, et ça on le reprochait. Ils disent mais nous avons des problèmes, disons à l'intérieur du mouvement, parce qu'il y a les extrémistes, etc. Et alors pour revenir, et c'était l'objet de cet appel de plusieurs anciens ambassadeurs, qui sont connaisseurs de ce dossier, c'est autour de la reconnaissance de l'État palestinien. Or maintenant, ce qui est extrêmement grave, disons, pour la perspective d'une solution. D'ailleurs, il y a un plan qu'on annonce, mais qui est toujours repoussé, c'est le plan Kouchner.
Oui.
Et pourquoi? Alors, pour répondre à ce que disait Gilles Kepel, il n'arrive pas à le sortir. Parce qu'il y a une marche arrière des Saoudiens. Ils veulent avoir des accords de sécurité, ils l'ont déjà depuis un certain temps, et d'autres, les Émirats Arabes Unis aussi. Et ils pensaient, les Américains... Comme en 1952, il y avait un plan de Johnson, on va régler le problème palestinien par l'économie, en déversant des milliards de dollars. Mais ça ne va pas fonctionner, parce qu'il y a un nationalisme égyptien. Et d'ailleurs, et tous les fondamentaux des révolutions arabes, on les retrouve dans les territoires. L'humiliation, Karama, la dignité, etc. Et maintenant, on dit qu'il n'y a plus de perspective d'État palestinien. Alors... On dit que c'est impossible, mais c'est la seule solution rationnelle. C'est pour ça que l'Union européenne et la plupart des nations sont favorables à un État palestinien, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, ni de Netanyahou. Et alors, c'est le problème. Vous savez que Netanyahou, dans l'échiquier politique israélien, se trouve au centre. Et il est sur sa droite avec les Bennett,
oui,
et autres,
il...
et qui annonce l'annexion de la Cisjordanie. Et là, qu'est-ce que ça veut
non,
dire
ça,
pour
Israël? Non, mais Ivo Ben-Lamé-Suzière,
oui.
Vous étiez dans une mission secrète auprès du Hamas. Là, si vous leur aviez dit, écoutez, une fois que les Israéliens se sont retirés de Gaza, vous auriez travaillé à assurer une vie digne et prospère aux Palestiniens, ça aurait été un extraordinaire signal pour le camp de la paix en Israël, alors que là maintenant, vous consacrez 250 millions de dollars par an à votre budget militaire et que vous n'avez qu'une idée à travers la lutte que vous menez, c'est celle du grand retour. Il y a un vrai problème. Je veux dire, le Hamas contribue à l'affaiblissement grandissant du camp de la paix en Israël.
Et tout autant l'autorité palestinienne. Il faut voir dans quel état elle se trouve. Parce qu'évidemment, on veut me mettre dans un camp... je suis ni pro-palestinien, ni pro-israélien. D'ailleurs, Israël, d'un certain côté, je connais mieux, puisque j'ai fait un séjour assez long dans un kibbutz. Mais pour revenir au Hamas, quand on discutait avec eux, malheureusement, je leur disais dans leur déclaration publique, dites-le, ils ne sont pas pour la destruction, puis ils savent très bien que c'est irréalisable, de l'État d'Israël. Et ils me disent, regardez notre charte. Jamais elle n'est nommée dans toutes les déclarations politiques ismaéliennes. Et ce qui est la réalité. Voilà. C'est un mouvement beaucoup plus pragmatique qu'on le croit. Et d'ailleurs, parce que quand je faisais ces missions, j'allais voir les Israéliens, y compris le Likoud, y compris le foyer juif de Bennett. Ils étaient très intéressés par nos analyses et l'état d'esprit des dirigeants. Étant bien entendu, comme dans tous les mouvements, ils ont leurs propres radicaux. Mais il faudra bien, le moment venu, discuter avec le Hamas si on veut trouver une solution.
Je disais tout à l'heure que l'islam était apparu comme une force politique, peut-être en 73, en 79, en 89, il y a plusieurs étapes. Mais ce qu'on apprend dans vos deux livres, c'est que l'islam aussi, et vous l'avez dit dans le cours de l'émission, Gilles Kepel, est extraordinairement divisé. Il y a toutes sortes de divisions. Sunnite et chiite, et à l'intérieur du monde sunnite, vous l'avez dit, même l'Arabie Saoudite d'un côté, le Qatar de l'autre, la salafisation, la frérisation, et peut-être même du côté de l'Arabie Saoudite une tentative de modernisation pour échapper au salafisme. Alors, comment peut-on expliquer cette division, tous ces schismes à l'intérieur de l'islam aujourd'hui?
Alors, historiquement, ça remonte au tout début de l'islam. Et ce sont des enjeux de pouvoir au départ. Il y a un très bon livre qui va sortir de ma collègue Hela Wardi, qui s'appelle « La déchirure » et qui raconte comment, au début même de l'islam, lorsque le premier calife, Abou Bakr el-Siddiq, prend le pouvoir, on a des enjeux extrêmement importants qui vont mobiliser la conception et même l'élaboration de ce que seront les textes sacrés qui sont en train de s'élaborer à ce moment-là. Ce sont des enjeux de pouvoir parce que l'islam va se répandre très rapidement, du reste, sur des civilisations assez diverses, les Persans, les Arabes, les Berbères, remontés sur le monde turc et autres, qui vont chacun s'efforcer d'utiliser, y compris le texte sacré ou les propos attribués au prophète, ce qu'on appelle le hadith, pour favoriser leur prétention au pouvoir. Et à partir du moment où l'islam, d'une certaine manière, sature l'espace du politique, chacun a besoin de s'y référer et d'expliquer que son interprétation est hégémonique et est la bonne. Avant les années 70, il y avait des chiites et des sunnites, en Irak par exemple, ou même des chrétiens et des musulmans et des sunnites et des chiites au Liban, ça n'avait aucune traduction politique. Les gens se mariaient ensemble, comme il y avait des Serbes et des Croates et des Bosniaques en Yougoslavie. Ça n'est qu'à partir des années 70, justement, que l'exacerbation du religieux comme un enjeu politique va aboutir à nourrir la violence qu'on a connue et des massacres à caractère ethnique qui sont en fait aussi des massacres à caractère sectaire, comme on dirait en anglais, c'est-à-dire les uns contre les autres. Et l'une des questions qui se pose justement, c'est de savoir dans quelle mesure aujourd'hui on n'est pas arrivé, ce qui serait une sortie vertueuse du livre, parce que le livre s'appelle « Sortir du chaos », ce qui ne veut pas dire qu'on en est sorti. C'est un infinitif, sortir, qui a une valeur impérative. Donc, essayer de comprendre comment on peut en sortir. On voit bien, par exemple, en Syrie aujourd'hui, que dans les régions où la guerre a cessé, la population est fatiguée de la guerre. Elle, un peu comme ça a été le cas en Algérie après 1997. Et il y a la volonté de recherche d'une solution de vivre ensemble qui ne fasse plus exclusivement de l'appartenance religieuse le critère fondamental de l'identité et qui fasse en sorte que, par exemple, au Levant, ce qui est commun dans cette civilisation levantine qui a été écrabouillée par la rente pétrolière soit plus important que ce qui constitue les différences, puisqu'elles ont abouti à des catastrophes sans nom. Donc ça, c'est un peu l'une des choses qui, me semble-t-il, il faut observer aujourd'hui, puisqu'on n'est plus en Syrie, si vous voulez, dans l'exacerbation de la violence. On est plutôt dans la construction de deals, de compromis entre les puissances régionales et internationales pour essayer de construire une forme de pôle de stabilité dans lequel nous, comme Européens, nous sommes partie prenante, non pas dans une perspective postcolonialiste ou autre, mais parce que, me semble-t-il, et c'est ce que j'essaie de dire dans le livre, le Moyen-Orient Méditerranée fait partie de notre environnement immédiat comme européen. Si on ne s'en occupe pas, si on n'est pas actif, il s'en occupe. Sinon, ce sont les attaques djihadistes en Europe, ce sont les flux migratoires non contrôlés qui aboutissent, comme vous l'avez vu, à la montée en puissance de l'extrême droite, que ce soit en Italie, que ce soit en Allemagne avec l'AFD, et même tout récemment en Espagne.
Il ne s'agit pas seulement de l'extrême droite, parce que au Danemark, c'est pas forcément l'extrême droite, c'est un accord entre les populistes et les sociodémocrates contre une immigration incontrôlée.
C'est vrai, mais avec un agenda, si vous voulez, qui est structuré essentiellement par la pensée d'un, appelez ça comme vous voulez, populisme radical, identitaire ou autre, et où on voit toutes les porosités. Vous avez parlé tout à l'heure des réseaux sociaux qui font que ça se maintient et que ça passe même dans des mouvements comme les mouvements de gilets jaunes qu'on a vus en France récemment. Oui. Et donc ça, je crois que ça nous contraint à une plus grande présence dans la région, à une meilleure connaissance des choses et à une véritable politique européenne. Son absence, je crois, est aujourd'hui très regrettable. C'est pour ça que les élections de mai 2019 seront un enjeu très important de ce point de vue-là aussi.
Juste un mot sur, puisque c'était l'objet de votre question, c'est l'opposition monde chiite, monde sunnite. Alors même, on était jusqu'à évoquer un axe chiite comme un axe sunnite auquel je ne crois pas, parce que là, c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus complexe qu'on ne le croit, ne serait-ce que, par exemple, l'Iran, qui s'appuie effectivement sur les communautés chiites, ben, elle soutient aussi le Hamas et surtout le djihad islamique. Hein, voilà. Donc, parce que le mouvement iranien, c'est un mouvement révolutionnaire anti-impérialisme et anti-israélien. Donc, il n'y a pas, disons, de prosélytisme chiite. Par contre, il y a un prosélytisme pas sunnite, mais wahhabite. Ça existe depuis des décennies, même en France. On n'en a pas conscience. Il y a la Ligue islamique mondiale qui est présente aussi et qui, depuis une cinquantaine d'années, fait du prosélytisme.
Les frères musulmans aussi sont très présents en France.
Alors, il n'y a pas si longtemps, si dans une mosquée, ils cherchaient un imam et l'Arabie saoudite apportait des aides, il faudra peut-être, à un moment, s'assurer qu'il n'y ait pas d'aide extérieure. Eh bien, si l'imam a été formé à l'université islamique de Médine, eh bien, là, les aides étaient beaucoup plus importantes de l'Arabie Saoudite, c'est ça. Mais alors, pour revenir à cette opposition, la chiisme et sunnite, c'est lié, cette opposition politique, au problème de la succession, évidemment, du prophète Mohammed. Mais quand on voit, là, par exemple, pour dire la faiblesse de cet axe, on parle des chiites, par exemple, au Yémen. On peut dire que si les Iraniens se sont fortement engagés maintenant auprès des Houthis qui sont des zaïdites, c'est une branche mais très éloignée, très très éloignée du chiisme. Et quand j'étais en poste, il y a fort longtemps, là au Yémen, ils me disaient « mais nous, on se considère, nous zaïdites, parce qu'ils ne font pas les pèlerinages, ni Najaf et Kerbela, ils ne célèbrent pas la Ashura, c'est-à-dire le martyr de Hossein qui a été... » Eh bien, nous considérons comme le cinquième rite à côté du hanbalisme, du chafiisme, du malikisme et du hanafisme. Et voilà donc, alors maintenant, effectivement, l'Iran assure leur protection, quelque sorte, mais ça ne va pas très loin. Et regardez les alaouites, parce qu'alaouite fait référence à Ali, le gendre et cousin du prophète. Mais ils n'ont absolument rien à voir avec le chiisme duodécimain, etc. Vous voyez, donc il faut, je pense, que sur ces axes-là, essayer et regarder. Alors, simplement, pour le monde sunnite, quand on voit cette division qui existe, Sajid Kepel en a parlé, elle est beaucoup plus forte, je crois, dans le monde sunnite que dans le monde chiite.
Mais alors, bon, Gilles Kepel en appelait à une politique européenne. Et vous décrivez aussi, Gilles Kepel, ce qu'a été la politique américaine sous Obama. Alors Obama, c'est par rapport à Trump le comble de la distinction, de la sophistication, mais sa politique était vraiment très erronée, puisqu'il pensait que l'AKP d'Erdogan conjuguait éthique musulmane et esprit du capitalisme et donc faisait référence.
Il ne vous a pas échappé que c'est un jeu de mots sur le fameux titre du livre de Max Weber, éthique protestante
et esprit du capitalisme. Bien sûr, mais vous dites aussi que Barack Obama avait engagé comme conseillère pour ses relations avec l'islam Dalia une égypto-américaine qui portait le hijab et qu'il considérait que le dialogue avec les frères musulmans était ce qu'il fallait faire parce qu'ils étaient exemplaires d'une modernité pieuse dont la Turquie de M. Erdogan constituait le parangon. Bon, il s'est évidemment trompé, mais simplement, moi j'ai envie de dire, les Européens, que peuvent-ils faire? Et je vais plutôt préciser ma question, parce que l'émission va bientôt se terminer. Aujourd'hui, que sait-on de ce que veut l'Iran? Parce que les Israéliens ont peur de l'Iran, l'Arabie Saoudite a peur de l'Iran. Que veut l'Iran en Syrie, avec son soutien au Hamas et son soutien à Hezbollah?
Alors c'est une question très importante et que j'ai abordée aussi dans le livre avec des opinions qui sont les miennes. La chose suivante, moi, la révolution islamique iranienne, elle est islamique, certes, mais elle est aussi, surtout, une vraie révolution sociale. Vous allez en Iran, les dirigeants que vous rencontrez, on voit bien que la plupart d'entre eux, il y a une génération, étaient encore issus du monde rural et de mariages consanguins. C'est un peu comme ce que devait être le paysage de la France d'après la Révolution française. Si vous voulez, il y a eu un bouleversement social absolu. Est-ce que ces gens sont d'abord attachés à la perpétuation d'une idéologie qui les amènera à un affrontement avec le reste du monde et qui risque de leur faire perdre les positions de pouvoir qu'ils ont construites? Ça fait 40 ans, ce mois de février, que la révolution islamique a transféré. Ou au contraire, est-ce qu'ils sont prêts à un certain nombre de compromis en allant plutôt vers un nationalisme exacerbé iranien que vers une propagation idéologique? Et moi, l'hypothèse que je fais, c'est que aujourd'hui, dans la société iranienne et même dans une partie de l'élite, y compris de l'élite militaire et des gardiens de la révolution, il y a la volonté de se désengager d'une situation qui les met dans quelque chose qui aboutit à un appauvrissement épouvantable. La situation est catastrophique en Iran aujourd'hui économiquement. Mais que ça, ils vont essayer de négocier. Tout à l'heure, Yves Aubin parlait de l'opposition à Israël. Qu'est-ce qui fait qu'il y a une opposition militaire? On sait qu'il y a des tirs régulièrement de roquettes, de missiles iraniens sur le Golan annexé par Israël en 81, unilatéralement. Les Israéliens envoient leurs chasses bombarder tout ça, etc. Les Russes disent, nous on est pour la paix, d'ailleurs, ce qui est intéressant, les Russes n'interviennent pas. Et parce que pour l'Iran, Israël, la frontière israélienne est sa ligne de défense, si vous voulez. Ils pensent que s'ils bombardent Israël, ça va faire un tel effet que du coup, préventivement, on ne va pas oser les attaquer sur leur territoire. C'est leur arme de dissuasion, vous voyez. Donc, si un deal est effectué de ce point de vue-là, il n'est pas impossible que l'on voit en Iran une baisse très importante de la dimension de radicalité religieuse du régime. C'est une hypothèse que je fais à partir d'un ensemble de signes que j'ai pu observer. Je ne suis pas sûr que ça va se produire, mais enfin, il y a des choses comme ça, et je suis convaincu que aujourd'hui, dans l'establishment israélien, dans lequel il y a pas mal de gens qui sont des juifs iraniens, d'ailleurs, qui connaissent bien le pays, ce sont des choses qui sont observées. Et ça pose la question, justement, de la manière dont, dans ce bouleversement énorme de la région, Israël va pouvoir trouver, effectivement, une place peut-être un petit peu différente. Ça, c'est un grand point de vue, mais comme je suis sûr que tout le monde écoute votre émission...
Même question, et puis que pensez-vous du retrait américain de l'accord
passé? Non, mais c'est une catastrophe, c'est une obsession. Et vous avez vu, là, le groupe de Varsovie, là, maintenant, il y a donc organisé par les Polonais et les Américains. Et donc, de nouveau, les Américains s'en sont pris aux pays européens, notamment à la France, à la Grande-Bretagne et à l'Allemagne, parce qu'ils essaient de trouver un dispositif pour contourner les sanctions américaines. Mais ils n'ont pas réussi, heureusement, à entraîner, disons, dans leur opposition à cet accord, les pays européens qui ont participé à cette réunion. Mais c'est une obsession totale des Américains et aussi, il faut le dire, de Netanyahou, qui en joue, là, beaucoup. Mais concernant, moi je dirais simplement un mot, ayant un petit peu observé la société il y a déjà quelques années, ben c'est peut-être une société en cours de sécularisation davantage que dans les pays arabes. En Iran, il y a une classe moyenne, moderne, très branchée sur l'extérieur, et c'est peut-être ça l'espoir de l'Iran.
On terminera donc sur ce signe d'espoir. Merci beaucoup. Je rappelle les titres de vos livres. Gilles Kepel, Sortir du chaos. Les crises en Méditerranée et au Moyen-Orient, chez Gallimard. Yves Aubin de la Messuzière, Profession diplomate, un ambassadeur dans la tourmente, chez Plon. Et vous avez publié chez Plon également, Monde arabe, le grand chambardement. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre Qu'est-ce que la laïcité? Mes invités seront Laurent Bouvet et Philippe Reynaud. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration d'Anne-Catherine Hochard et Massimo Bellini. À la technique aujourd'hui, Éric Boisset. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.